Et à 18h, le journal vous est présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Donald Trump va-t-il être démis de ses fonctions? Si le vice-président n'active pas en urgence le 25e amendement, les démocrates veulent lancer une procédure de destitution. Nous joindrons dans un instant Franck Madvon aux États-Unis. Alors que la diffusion du variant britannique fait craindre une accélération de l'épidémie de Covid-19, le vaccin Moderna arrive en France et le rythme des vaccinations s'accélère. Rosalie Lafarge s'est rendue dans un centre de vaccination ouvert aujourd'hui en Seine-et-Marne. Une trentaine de décideurs mondiaux participent au One Planet Summit consacré à la biodiversité, un sommet suivi par Véronique Robérotte pour France Culture. Quand les banques mobiles et digitales deviennent également vertes et responsables, c'est le thème de Demain l'Écho, notre nouveau rendez-vous consacré à l'économie en transition. La néobanque Helios promet à ses clients que leur argent n'ira pas financer d'industries polluantes, une chronique d'Annabelle Grenier. L'Amérique unie, ce sera le thème de l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, le 20 janvier. L'Amérique unie, on en est loin aujourd'hui. Le président sortant, Donald Trump, a fait savoir qu'il ne participerait pas à la cérémonie. Et puis, depuis les débordements au Capitole qui ont entraîné la mort de 5 personnes, les démocrates accusent Donald Trump de représenter une menace imminente contre la démocratie. Ils réclament une nouvelle fois sa destitution. Vous êtes à Washington, Franck Madvon. La session à la Chambre des représentants vient de commencer et la mise en accusation de Donald Trump est déjà rédigée.
Oui Aurélie, c'est un texte de 4 pages qui détaille les raisons pour lesquelles Donald Trump doit être destitué. Il est accusé d'avoir délibérément incité à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Le document revient sur le déroulement de la journée du 6 janvier, les fausses allégations de Trump assurant à ses supporters qu'il a bien remporté l'élection. Le président a donc incité la foule à commettre des actes violents et meurtriers au Capitole, fermez les guillemets. On rappelle que 5 personnes ont trouvé la mort, dont un policier. Les élus démocrates citent aussi la discussion téléphonique entre Donald Trump et le secrétaire d'État de Géorgie, au cours de laquelle le président avait demandé que l'on trouve suffisamment de bulletins pour renverser le résultat de l'élection. Selon la motion, Donald Trump a en résumé mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions. Il a menacé l'intégrité du processus démocratique. Les mots sont forts. Il est très probable que ce texte soit approuvé par la Chambre, où les démocrates, vous le savez, sont majoritaires. Le vote pourrait avoir lieu mercredi. Mais dans un premier temps, les élus ont demandé aujourd'hui au vice-président Mike Pence d'activer le 25e amendement qui permet de déclarer un président inapte. Les républicains s'y sont opposés pour la forme. De toute façon, sauf surprise, cette tentative n'aboutira pas. La procédure de destitution pourra alors être formellement lancée.
Franck Madvon en direct de Washington avec Alexandre Abergel à la technique. Donald Trump est désormais isolé et muet depuis son éviction de Twitter et le réseau social conservateur Parler est lui-même hors ligne depuis cette nuit. Amazon a en effet coupé l'accès du réseau social à ses serveurs parce qu'il ne modérait pas les messages incitant à la violence. La correspondance de Loïc Piala.
Le patron de Parler, un ingénieur de 27 ans, estime ne pas avoir de responsabilité. Dans les événements de mercredi dernier, son site se comparant selon lui à un forum de discussion neutre. Mais Apple, Google et Amazon lui reprochent en substance de ne pas avoir modéré des messages incitant à la violence. En retirant l'application de leur App Store, Apple et Google ont agi comme un magasin qui enlèverait de ses rayons une marque controversée. Mais avec la décision d'Amazon de ne plus héberger le site, c'est comme si la marque était priée de quitter l'immeuble où elle a ses bureaux. Il faudra du temps avant de trouver un nouvel hébergeur, pourquoi pas Epic, une société de Seattle qui a déjà accueilli d'autres sites du même genre, suggère le New York Times. En attendant, l'application aux 15 millions d'utilisateurs restera indisponible. Voulons-nous que tous les contenus postés en ligne soient retirés sans autre forme de procès s'ils sont signalés par un algorithme, a demandé une représentante du site sur Fox News. Une interrogation reprise par l'Union américaine des libertés civiques, s'inquiétant du manque de neutralité des infrastructures de l'Internet comme Amazon Web Services.
Loïc Piala. Rencontre au sommet aujourd'hui à Moscou à l'initiative de Vladimir Poutine pour aborder à nouveau la question du Haut-Karabakh. 2 mois après les accords de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le président russe a fait venir ensemble dans son bureau du Kremlin le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais. Les 3 dirigeants ont fait une déclaration commune et présenté la création d'un groupe de travail dont la mission principale sera de dégager des mesures, surtout d'ordre économique, Claude Bruyot.
Un groupe de travail composé de 3 vice-premiers ministres se réunira le 30 janvier avec pour objectif principal le développement du Haut-Karabakh qui correspondrait, en restant prudent, à une forme de désenclavement économique. En contrepartie, l'Azerbaïdjan obtiendrait, lui, les mêmes dispositions avec le Nakhitchevan, son enclave en territoire arménien. Le tout sur la base de développement des voies de communication routières et ferroviaires. Pour Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, toujours sous la pression de ses opposants qui réclament son départ depuis 2 mois maintenant, le jugeant responsable de la défaite militaire contre l'Azerbaïdjan, pour Pachinian donc, cette ébauche d'accord aurait pour avantage, je cite, « d'améliorer l'image économique du Haut-Karabakh et surtout, insiste le chef du gouvernement arménien, d'offrir des garanties de sécurité en matière de transport entre l'enclave et le territoire arménien ». Rien pour l'instant, en revanche, sur le point principal, à savoir le statut juridique de l'entité peuplée majoritairement d'Arméniens, mais appartenant en droit international à l'Azerbaïdjan. Le Kremlin, s'il en avait besoin, a confirmé ce mécanisme tripartite et envoyé un message clair à Recep Tayyip Erdogan, le soutien numéro 1 de Bakou, histoire de rappeler que la Russie entend bien garder la haute main sur le Caucase Sud. La démarche s'adresse aussi au groupe de Minsk, USA et France en tête, à cette nuance près que Vladimir Poutine a pu informer hier par téléphone Emmanuel Macron de ses intentions.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture en Russie. La Grande-Bretagne se prépare à vivre ses pires semaines, selon son chef des services sanitaires. Le service de santé du pays est déjà soumis à une énorme pression en dépit du déploiement d'une vaste campagne de vaccination. Le nombre de décès dus au coronavirus a dépassé les 81 000 morts au Royaume-Uni. Les vaccins ne manquent pas dans l'immédiat et la société allemande BioNTech, associée au géant américain Pfizer, estime être en mesure de produire 2 milliards de doses de leur vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année. Le vaccin Moderna, lui, commence à arriver en France. Alors que la campagne de vaccination s'accélère, de nouveaux centres ouvrent un peu partout sur le territoire. D'une centaine de centres opérationnels la semaine dernière, on doit passer à 300 cette semaine, selon Jean Castex, puis 600 d'ici la fin du mois. De nombreux élus locaux plaident en ce sens depuis plusieurs semaines et à Meaux, en Seine-et-Marne, c'est aujourd'hui une réalité. Rosalie Lafarge, un centre vient d'ouvrir ses portes cet après-midi.
C'est d'ordinaire une salle de spectacle, mais plusieurs box ont pris place au sein du Colisée de Meaux. Les soignants, près de 40 inscrits aujourd'hui, y défilent pour recevoir leur dose.
Je pique.
Merci.
Vous appuyez un petit peu dessus ?
Alors ça y est, je me suis vacciné pour la première fois.
Philippe Rouillard, radiologue à Meaux, était impatient.
J'aurais souhaité que ça commence un peu plus rapidement. Je trouve qu'on a pris un peu de retard à l'allumage, oui. On a tous été témoins que ça avait commencé en prenant des précautions qu'on n'a pas très bien compris d'ailleurs.
Sous sa blouse blanche, le cancérologue Christian Allard, responsable de ce centre et adjoint à la santé du maire de Meaux, acquiesce.
On est toujours surpris parce qu'on imagine qu'enfin le bon sens prenne le dessus. Pour l'instant, le bon sens dans cette affaire n'a pas été au rendez-vous depuis le début. Et le début, ça remonte à un an. Alors, tout ceci s'améliore au fil du temps, mais sous la pression, en fin de compte, des élus, des professionnels de santé et puis des voix qui s'élèvent, de la population aussi, qui s'étonne.
Et depuis le début de la crise, on ne tire aucune leçon des erreurs commises, insiste le maire Les Républicains de Meaux. Jean-François Copé l'assure, si ce centre ouvre aujourd'hui, c'est uniquement parce que la mairie s'en est donné les moyens.
Nous n'avons rencontré aucun obstacle pour ouvrir ce centre parce qu'on l'a fait nous-mêmes en liaison avec l'Agence régionale de santé. Les obstacles bureaucratiques, ils étaient en amont parce que dans l'organisation nationale, personne n'avait prévu d'associer le territoire. Personne. Ils avaient décidé de faire ça tout seuls, dans leur coin. Ils avaient accumulé des procédures préalables d'une lourdeur absolument inimaginable. Et donc, en fait, rien n'était prêt. Et c'est nous qui avons été proactifs et qui avons lancé le dispositif.
Ces critiques venues la plupart du temps de l'opposition, le ministre de la Santé semble s'en agacer. Olivier Véran dénonce de fausses polémiques nourries par des élus en campagne qui s'offrent, dit-il, des coups de com'.
Rosalie Lafarge, vaccination, la politique a-t-elle méprisé la logistique ? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera aux invités du temps du débat à 18h20. La crise sanitaire liée au Covid-19 et les effets de plus en plus palpables du réchauffement climatique font prendre progressivement conscience de la nécessité de repenser notre relation avec la nature. De là à agir concrètement pour mettre fin au modèle de production destructeur du vivant, il y a un grand pas. Et après une année où la diplomatie verte a été quasiment à l'arrêt, le sommet One Planet Summit, initié par la France, vise à relancer la dynamique. Une trentaine de décideurs mondiaux y participent, en présentiel à Marseille pour les uns, à distance pour les autres. Et vous avez suivi ces échanges, Véronique Rubérotte.
De petits clips à la musique parfois invasive, comme certaines espèces, montrent une nature abîmée par les effets du réchauffement climatique et la perte de biodiversité. L'urgence à prendre des engagements concrets et vérifiables ne fait aucun doute pour la trentaine d'intervenants, chefs d'État, ministres, banquiers de ce One Planet Summit. Et les engagements de protection des écosystèmes pris par les Nations Unies qui arrivaient à échéance en 2020 sont pour le moins décevants. Emmanuel Macron en maître de cérémonie.
Sur la biodiversité, la communauté internationale avait défini en 2010 les engagements d'Aichi. 10 ans plus tard, le constat est sans appel. Pas un seul des 20 objectifs, qui allaient de l'arrêt de l'extinction des espèces à la réduction de la pollution et à la préservation des forêts, n'est atteint.
Chacun y va de son initiative, des coalitions d'action sont détaillées les unes après les autres. L'initiative franco-allemande, Présode, pour réduire les risques de pandémie. La coalition pour une mer Méditerranée exemplaire. La coalition de la haute ambition pour la nature, lancée par la France et le Costa Rica, défend la mise sous protection de 30% des espaces terrestres et maritimes d'ici 2030. 50 États s'y sont engagés. Annoncée aussi la somme de 12 milliards d'euros sur la période 2021-2025, consacrée à l'accélération de la Grande Muraille Verte, une barrière végétale de 8 000 km entre le Sénégal et Djibouti, destinée à lutter contre la désertification au Sahel. Le projet date de 2007, mais a peu avancé. Le président mauritanien, Mohamed El Ghazouani, y voit l'occasion d'une relance post-Covid.
L'agroécologie représente un enjeu majeur pour nos pays sahélo-sahéliens. Nous avons, sur la base d'une vision nouvelle pour un développement rural durable, créé l'initiative de la Grande Muraille Verte. Elle constitue de ce fait une excellente opportunité pour une relance économique post-Covid en milieu rural. Cette relance contribuera au maintien de la santé des écosystèmes et à la prévention des zoonoses comme la Covid-19.
Les engagements devront être concrets, vérifiables et transparents, a-t-il été dit plusieurs fois, un vrai défi à relever.
Véronique Rebérotte, la transition écologique passe par celle de l'économie. Un sujet que nous abordons tous les lundis dans Demain l'écho. De plus en plus de Français font des efforts au quotidien pour respecter la planète, mais sans qu'ils en aient toujours conscience, leur argent peut financer des industries polluantes. Helios, une toute nouvelle banque digitale, arrive sur le marché avec la promesse, Annabelle Grelier, de se montrer verte et responsable.
Jeune, mais pas naïve, passée par les salles de marché, Maëva Courtois, cofondatrice d'Helios, connaît bien le monde de la finance.
Moi, j'ai travaillé plusieurs années en banque d'investissement et j'étais choquée de voir que les banques et les financiers continuent de financer massivement des industries à risque pour l'environnement. Et je pense que c'est important qu'un nouvel acteur apporte de la transparence.
Car c'est bien en concurrente aux banques traditionnelles que se positionne Helios, des banques qui continuent de financer les industries polluantes et les énergies fossiles.
Exactement. Avec Helios, on veut proposer en fait à tous les Français qui ne souhaitent plus participer au soutien d'activités à risque pour le climat, la biodiversité ou pour les hommes, d'avoir une alternative et de vraiment proposer une alternative globale qui leur permette de sortir de ces industries-là et d'aligner leur argent avec leurs valeurs.
Et la transparence que promet Helios commence tout d'abord par la pédagogie. Car tout est fait pour que le grand public ne comprenne rien au fonctionnement même d'une banque, estime Florian Lebon. Il est directeur clientèle chez Helios.
On a une vraie volonté parmi nos clients de comprendre en quoi les banques polluent, en quoi les banques finalement viennent financer des secteurs qui sont aux antipodes de leurs pratiques au quotidien. Je pense par exemple à une jeune femme qui pratique le zéro déchet et qui, sans le savoir, en ayant son compte dans une banque traditionnelle, vient financer le charbon ou l'extraction pétrolière. Avec Helios, évidemment, pas un euro ne va vers ces secteurs.
C'est la promesse d'Helios et c'est d'ailleurs ce qui fait sa différence avec d'autres néobanques. Elle affiche la couleur. Le vert. Helios promet d'associer ses clients à la construction de leur banque. Ils sont déjà 12 000 à s'être préinscrits pour ouvrir un compte courant, signe d'un changement de mentalité. Julia Menayas, co-directrice générale d'Helios.
Ça montre surtout que les clients aujourd'hui n'ont pas envie d'être simplement consommateurs du service, mais ils ont envie d'être partie prenante et d'être finalement acteurs de leur banque, faire partie des décisions et du futur de leur établissement bancaire.
Lancer une banque en France n'est pas facile et obtenir une licence bancaire relève du défi. Des licences gardées jalousement par un certain lobby des banques traditionnelles qui entretiennent des liens étroits avec Bercy et l'inspection des finances. Pour se frayer un chemin, Helios passera donc par l'Allemagne.
Alors aujourd'hui c'est très difficile effectivement et c'est le défi auquel on s'est attaqué dans les premières heures d'Helios, c'est d'arriver à trouver une solution qui à la fois permette d'un point de vue réglementaire d'être sur le marché et d'autre part d'avoir effectivement le contrôle sur les dépôts des clients. Aujourd'hui, les alternatives, en tout cas les solutions qui existent pour lancer ce type de service ne permettaient pas jusqu'alors d'avoir ce contrôle-là. Et c'est pour ça qu'on a dû aller travailler avec un acteur en Allemagne pour pouvoir mettre en place ce système et cette transparence.
Constituée sous le statut d'entreprise à mission, deux ONG siégeront dans son comité éthique. Du côté réglementaire, Elios louera sa licence à Solaris Bank, bénéficiant du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Pour créer une banque, il faut au minimum à peu près 30 millions de fonds propres. Donc la solution par laquelle on passe en Allemagne est super innovante parce que ça n'existe pas vraiment ailleurs aussi.
L'ouverture d'un compte courant en 8 minutes sur l'application, 6 euros d'abonnement mensuel, virement et retrait illimité, Elios ressemble tout de même à une banque pensée par des millennials pour des millennials. Florent Lebon veut croire qu'elle ressemblera bien plus large.
Elios n'est pas l'affaire d'une génération, elle touche toutes les générations qui ont envie aujourd'hui de mettre leurs dépôts au service de la transition écologique. J'ai au téléphone des jeunes et des moins jeunes, je pense notamment à Marcel, qui a un vieux smartphone sans forfait de données associé et qui cherche à rejoindre Elios. Donc oui, Elios est ouvert à tous.
L'application est prête, les cartes bancaires sont en production. L'équipe d'Elios, formée d'une dizaine de salariés, donnera le coup d'envoi le 1er février prochain.
Annabelle Grelier, demain l'écho, c'est tous les lundis dans le journal de 18h et aussi sur franceculture.fr. Le gouvernement a simplement pris acte aujourd'hui de l'ouverture prochaine d'une information judiciaire à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti. Comme l'a annoncé vendredi le procureur général près de la Cour de cassation, François Molins, le garde des Sceaux est visé par plusieurs plaintes devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Autant dire que l'audience solennelle de la Cour de cassation se tient en ce moment dans une ambiance inhabituelle. C'est un rendez-vous traditionnel début janvier, mais le Premier ministre Jean Castex est présent, ce qui n'est pas vraiment courant, Florence Thuin.
De sources gouvernementales, on précise qu'il ne s'agit pas pour le Premier ministre de manifester ainsi un soutien affiché au garde des Sceaux, mais plutôt de répondre à l'invitation formulée par les chefs de cour et marquer l'attention à l'action de la justice et à son budget, le plus important depuis les 25 dernières années. Jean Castex ne prendra d'ailleurs pas la parole. Le gouvernement souhaite, cela dit, que le garde des Sceaux poursuive sa mission avec vigueur et détermination et espère par ailleurs que l'information judiciaire à venir permettra de sortir des allégations livrées dans un sens toujours unilatéral. C'est la commission d'instruction de la Cour de justice de la République qui va donc enquêter sur cette affaire une fois l'information judiciaire effectivement ouverte par le procureur général François Molins. Cela ne saurait tarder. La commission des requêtes de la CJR, composée de hauts magistrats et qui fonctionne comme une sorte de filtre préalable, a en effet jugé recevables les plaintes déposées par 3 syndicats de magistrats et l'association Anticor. Ils reprochent à Éric Dupond-Moretti d'avoir lancé des poursuites administratives contre 3 magistrats du parquet national financier qui travaillaient sur le dossier Sarkozy-Herzog. Ils avaient alors demandé les fadettes, les facturations téléphoniques détaillées de plusieurs avocats, dont celle de l'actuel ministre qui avait déposé une plainte avant de la retirer lors de son entrée en fonction. Une inspection administrative est en cours sur ce dossier et sur un autre également. L'inspection générale ne rendra pas son rapport avant le mois prochain et pour sa part, le garde des Sceaux a simplement indiqué qu'il s'exprimerait le moment venu.
Florence Thuin. Grève très suivie au journal L'Équipe. 80% des salariés du quotidien sportif ont suivi le mouvement ce week-end, d'après les syndicats, qui ont voté cet après-midi la reconduction du mouvement pour 24 heures. Les salariés s'opposent au plan d'économie de la direction qui veut supprimer 10% des effectifs, soit environ 40 postes sur un groupe qui en compte 330. Les syndicats demandent un projet d'avenir à leur propriétaire, le groupe Amaury, qui de son côté anticipe la fin du journal imprimé, Maxime Tellier.
Les salariés s'opposent à deux plans sociaux qui sont la conséquence de l'arrêt du magazine Sport et Style d'abord et du passage de l'hebdomadaire France Football à une version mensuelle. Mais la crise couve depuis l'été dernier dans le groupe. À la sortie du premier confinement, les syndicats ont d'abord refusé un plan de réduction des salaires et d'augmentation du temps de travail en échange d'une promesse de non-suppression de postes. Mais cette fois-ci, la direction revient à la charge en supprimant des postes. Béatrice Avignon est élue du SNJ, le syndicat national des journalistes, à L'Équipe.
On n'est pas non plus complètement naïf. On sait très bien que la presse n'est pas en très bon état, qu'il y a des problèmes de points de vente, que la distribution n'est pas au mieux. Et on sait que le numérique est de plus en plus important. Ce qu'on conteste, en fait, c'est que tout ne va pas si mal, aussi mal que ce qui a été dit après le Covid. Et ensuite, c'est pas en réduisant les effectifs et en suivant de moins en moins de sports, de moins en moins de compétitions, même le foot, ils veulent tailler dans ce qu'on suit en football. On a l'impression que là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. En fait, au final, on voit pas comment on va pouvoir gagner des abonnés et intéresser les lecteurs en faisant ça.
Et les syndicats affirment que le groupe Amaury a les moyens d'absorber le choc économique de la crise sanitaire. Ils citent les dividendes distribués aux actionnaires en 2020, 11 millions d'euros. Mais le propriétaire estime que le Covid accélère une tendance de fond, le passage de l'imprimé au numérique avec une baisse surtout des recettes publicitaires. Un point de vue comptable inaudible pour des salariés qui en sont à leur 8e plan social en 8 ans. Ils veulent un plan d'avenir et pas un énième plan d'économie.
Maxime Tellier, demain mardi, le temps sera gris avec de la neige à l'est, de la pluie à l'ouest, du soleil tout de même sur l'est des Pyrénées et en bord de Méditerranée. Au petit matin, les gelées seront fréquentes. En revanche, les maximales seront souvent en hausse. 2 à 8 degrés dans l'est, 7 à 11 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.